La grâce, la paix, mais aussi la joie nous sont données de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Sauveur. J'espère que toutes et tous ici vous vous sentez accueillis comme vous devez l'être, c'est-à-dire dans l'espérance, dans la reconnaissance, dans le respect des uns des autres, accueillis aussi pour vivre un moment de fraternité, de partage, évidemment, accueillis aussi pour nous retrouver autour de ce thème qui nous anime pendant ces dimanches. Vous savez que c'est le libéralisme sur lequel nous nous penchons cette année dans ces cultes conférences. Et aujourd'hui, nous verrons le libéralisme théologique présenté par Raphaël Picon, qui est professeur à l'Institut protestant de théologie, professeur de théologie pratique. Et vous pourrez le rencontrer tout à l'heure à l'issue de ce culte tranquillement. J'espère que vous prendrez le temps de le faire. Oui, c'est vrai que c'est un moment de joie parce que chaque fois qu'on se retrouve autour d'une parole d'espérance et puis chaque fois qu'on se retrouve dans la fraternité, chaque fois qu'on se retrouve aussi pour en apprendre un peu plus dans nos vies, eh bien je pense que c'est vraiment de la joie au sens fort et au sens le plus profond du terme qui nous anime les uns et les autres. Alors, si vous n'êtes pas habitué à cette maison, vous êtes quand même évidemment à 100% chez vous. Et j'espère que vous avez les deux registres, le petit registre bleu sur lequel il y a les chants spontanés et le registre marron avec les chants qui vous sont commandés. Seigneur, te prions pour te remercier parce que tu nous appelles les uns les autres pour nous réunir ici en ce lieu avec toutes celles et tous ceux auxquels nous pensons et que nous associons à notre prière. Oui, tu nous réunis ici pour vivre de ta parole. Tu nous réunis pour nous nourrir de la vraie nourriture. Seigneur, au moment de partager ta parole, ouvre nos cœurs à ta parole. Amen. Et je vous invite à lire dans l'évangile de Luc, les chapitres 5, les 11 premiers versets, qui sont une des recommandations de lecture pour aujourd'hui. Or, un jour, la foule se serrait contre lui à l'écoute de la parole de Dieu. Il se tenait au bord du lac de Génézareth, et il vit deux barques qui s'y trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs qui en étaient descendus lavaient leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et demanda à celui-ci de quitter le rivage et d'avancer un peu. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: « Avance en eau profonde, jetez vos filets pour attraper du poisson. » Et Simon répondit: « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Ils le firent et capturèrent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs camarades de l'autre barque de venir les aider, et ceux-ci vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant: « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur. » C'est que l'effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pris. De même, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, qui étaient des compagnons de Simon. Jésus dit à Simon: « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu auras à capturer. » Et ramenant alors les barques à terre, laissant tout, ils le suivirent. Voilà, dans ces gens qui viennent écouter Jésus, je ne sais pas qui il y avait, mais à travers Simon-Pierre, Jacques et Jean, on s'aperçoit qu'il y a des gens au caractère bien différent les uns des autres. Peut-être y avait-il dans cette foule des gens qui avaient un état d'esprit un peu ouvert et libéral, je ne sais pas, mais très vraisemblablement. D'autres devaient être des observateurs fidèles de la loi prise à la lettre. D'autres devaient discuter telle ou telle parole de l'ancienne alliance, je ne sais pas très bien. Mais sur une foule qui venait écouter Jésus, il devait y avoir vraisemblablement tous ces courants déjà représentés, s'exprimant évidemment avec les moyens de l'époque, avec leur langage qui leur était propre. Et aujourd'hui, nous retrouvons dans le genre humain tous ces courants qui animent l'espèce humaine. Et le courant libéral en théologie est un de ces courants, évidemment, vous savez, qui nous est cher. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le libéralisme théologique dans les minutes et les secondes qui suivent. Et donc, j'ai demandé à Raphaël de venir pendant notre courge d'orgue.
Voilà, merci de me donner la parole et de m'inviter dans ce lieu pour parler de cette théologie libérale qui, en effet, comme l'a dit Vincent, est un des courants de la théologie contemporaine. Vous connaissez peut-être, sans doute, je l'espère, Évangile et Liberté, qui est la revue justement de ce protestantisme libéral. Alors, il y a différentes manières de comprendre cette théologie libérale. J'aimerais dire déjà qu'il n'y a pas une seule théologie libérale, il n'y a pas d'orthodoxie libérale. Il y a des pensées, il y a des réflexions, il y a des théologies que l'on peut considérer comme libérales pour un certain nombre de raisons. Et ce sont justement ces raisons que j'aimerais brièvement énumérer ce matin. J'aimerais poser un certain nombre de critères qui nous permettraient de qualifier la réflexion théologique de libéral. Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire qu'une pensée est libérale ? Voilà, c'est la question qui m'anime ce matin. Alors, j'aimerais d'abord faire deux brèves remarques. La première, c'est que on a parfois défini la théologie libérale à travers un certain nombre de contenus, par un contenu spécifique, et notamment un certain nombre d'affirmations, qui étaient d'ailleurs souvent des affirmations négatives. On a dit « Ah ben les libéraux sont ceux qui ne croient pas en la vie éternelle ». Les libéraux ne croient pas, ne reconnaissent pas l'affirmation de la Trinité. On a pu dire aussi que les libéraux refusaient l'idée de la divinité de Jésus. Bon, un certain nombre d'affirmations, donc souvent des affirmations négatives, qui définissaient la théologie libérale à travers un contenu. Et on a parfois aussi pensé la théologie libérale plutôt à partir d'une démarche, en fonction d'une méthode, d'une manière d'être aussi, une manière d'être critique ou de souligner la relativité des convictions, une démarche qui valorise la raison. Donc vous voyez deux types de définitions, une définition par un contenu, et souvent d'ailleurs un contenu négatif, ou une définition plutôt sous forme d'attitude, de manière d'être, de méthode. Il me semble qu'il y a du vrai dans chacune de ces démarches, mais elles sont certainement insuffisantes l'une comme l'autre. Se limiter à un contenu risquerait fort de faire de la théologie libérale une nouvelle forme d'orthodoxie, une sorte d'orthodoxie inversée. Et en même temps, se limiter à une démarche, à qualifier la pensée libérale à travers une démarche, une attitude critique, pourrait sembler insuffisant parce qu'on pourrait se dire « Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même une prédication ? Est-ce qu'il n'y a pas quand même un contenu spécifique ? Est-ce que c'est simplement une manière de se positionner par rapport aux idées ?» Bon, alors, sans doute qu'il y a à prendre en compte ces deux éléments et je vais essayer de le faire. Il y a du contenu et il y a aussi une manière particulière et c'est ça ce qui forme la théologie libérale. La deuxième remarque, c'est que j'aimerais constater que les définitions du protestantisme libéral ont varié à travers le temps. Ce qui a pu être considéré comme libéral au XVIIIe siècle n'est pas forcément ce qu'on peut dire qu'on peut identifier comme libéral au XIXe ou au XXe siècle. Et cela signifie que la pensée libérale est une pensée évolutive, une pensée flexible, une pensée qui ne relève pas d'un système défini une fois pour toutes. Cela signifie aussi que ce qui a pu passer pour être une pensée libérale à une certaine époque peut très bien, à une autre période, passer pour une pensée classique, voire une pensée orthodoxe. Par exemple, à la fin du XIXe siècle, le fait de développer une lecture critique de la Bible, le fait de soumettre l'interprétation de la Bible à une méthode historique et critique, était une démarche foncièrement libérale. Or, cette approche de la Bible est aujourd'hui utilisée dans des milieux de recherche et des milieux d'église qui ne se réclament pas forcément du libéralisme. On dit parfois, à juste titre, que les hérésies d'hier sont les orthodoxies d'aujourd'hui. Je crois qu'il y a quelque chose de vrai dans cette formule. Cela pour dire qu'il me semble qu'une des vocations de la pensée libérale en théologie et de se risquer à l'innovation, à la créativité, à l'audace peut-être aussi, à la prospective d'idées nouvelles, hérétiques peut-être, des idées qui seront peut-être les idées plus traditionnelles, voire des idées orthodoxes de demain. Alors qu'est-ce qui nous permet de considérer comme libéral telle ou telle pensée théologique? Qu'est-ce qui permet d'accoler ce titre de libéral à telle ou telle théologie, à telle ou telle pensée, article, revue comme Évangile et Liberté? Qu'est-ce qui fait par exemple qu'Évangile et Liberté est une revue de théologie libérale? Eh bien, c'est ce que j'aimerais donc clarifier maintenant et je vais poser un certain nombre de critères. Et je dirais tout d'abord, et ce sera le premier critère, qu'une théologie est libérale parce qu'elle fait usage de la raison, parce qu'elle refuse de sacrifier la raison sur l'autel de la croyance. Croire, c'est comprendre ce que l'on croit. Croire, c'est comprendre ce que l'on croit. Et tout au long de son histoire, la théologie libérale n'a cessé de réhabiliter la pensée. Elle n'a cessé de récuser le divorce entre la raison et la foi. Ce fut le cas, j'en ai fait allusion au XIXe siècle, avec l'utilisation de la méthode historique et critique pour lire la Bible. Ce fut le cas au milieu du XXe siècle, lorsque des théologiens ont soumis les résultats de leurs recherches à l'apport des sciences humaines. C'est le cas aujourd'hui des théologiens qui font de la théologie avec des scientifiques, et plus généralement en dialogue avec la culture. La théologie libérale est une théologie en quête d'intelligibilité. Elle veut penser la foi. Elle considère que la foi ne peut pas être, ne doit pas être, une foi aveugle, qu'elle doit pouvoir donner du sens à ce qu'elle affirme et expérimente. Cela ne veut certainement pas dire que tout ce qui relève de la foi serait réductible au savoir et à la raison. Il y a bien des choses qui nous dépassent et qui excèdent notre entendement. On dira d'ailleurs volontiers de Dieu qu'il est Dieu précisément parce qu'il est non réductible à ce que nous pouvons dire à son sujet. Il ne s'agit pas d'ériger la raison et la science comme les seuls éléments qui rendrait légitime le discours théologique. Mais si tout ne s'explique pas, si la foi excède le domaine du raisonnable, si Dieu n'est pas enfermé dans nos savoirs, cela ne signifie certainement pas qu'il faille renoncer à la raison. Car c'est bien l'usage de la raison qui nous permet de donner du sens à ce que l'on croit et à communiquer sur ce que l'on croit. On pourrait dire aussi qu'il faut précisément utiliser la raison pour découvrir qu'elle est elle aussi limitée, cette raison. Il faut se servir de ce que la raison nous donne pour aller jusqu'au bout de ce qu'elle peut nous donner. Quand on valorise à ce point la raison, il faut aussi préciser qu'il ne s'agit pas d'affirmer que la foi serait le produit de la raison, qu'il faudrait développer toute une argumentation, tout un argumentaire pour que nous puissions, en conclusion, nous en remettre à Dieu et croire en Dieu. La foi nous vient d'ailleurs. Elle est l'expérience d'un saisissement. Elle est acquiescement à Dieu, à la vie, à soi-même. Elle est l'expérience de ce saisissement par quelque chose de plus ultime, dont les raisons de cette expérience nous échappent toujours en partie. Si la raison ne produit pas la foi, c'est la foi qui produit la raison. La foi appelle la raison. Elle a besoin de la raison pour lui donner des mots, des concepts, des images, pour lui donner une raison, on pourrait dire, autant d'éléments qui nous permettent de dire ce que nous croyons, d'expliquer ce que cela signifie et dire pourquoi on croit ceci et pourquoi on ne croit pas cela. Oui, croire, c'est comprendre ce que nous croyons, et je crois que c'est là le premier critère d'une théologie libérale, une théologie qui appelle la raison et qui est toujours en quête d'intelligibilité. Le deuxième critère que j'aimerais avancer, que j'aimerais mettre en avant pour qualifier de libérale une pensée théologique, c'est le refus de l'esprit d'orthodoxie. le refus de l'esprit d'orthodoxie. C'est un élément auquel je tiens personnellement beaucoup et qui, je crois, nous anime tous dans l'équipe d'Évangile et Liberté. Le refus de l'esprit d'orthodoxie, c'est le refus d'une attitude surplombante, d'une attitude normative en matière théologique. C'est le refus de traiter les pensées de haut et de les qualifier ou de les disqualifier en fonction de critères préétablis et définitifs. Refuser l'esprit d'orthodoxie, c'est accueillir les pensées, les idées, les pratiques pour ce qu'elles sont. C'est favoriser ainsi une approche résolument plurielle de la foi. Cela ne veut pas dire que tout serait légitime en soi. Cela ne veut pas dire qu'on devrait renoncer à exprimer un jugement, à tout jugement, qu'on devrait récuser tout esprit critique. Refuser l'esprit d'orthodoxie, c'est considérer que tous les critères d'évaluation et de légitimation de nos propres pensées doivent être révisables. Ce qui fonde notre jugement, ce qui me permet d'évaluer positivement ou négativement telle ou telle doctrine, n'est pas définitif. Et ces critères doivent être révisables. Et même les critères du libéralisme, et même les critères que j'avance ce matin. On peut dire de ce refus de l'esprit d'orthodoxie qu'il impose un véritable travail sur soi, une démarche personnelle d'accueil, de désir de compréhension, d'ouverture bienveillante aux pensées des autres et de relativisation de ses propres critères qui nous permettent de qualifier, de valider ou d'invalider telle ou telle doctrine. Sur le plan théologique, refuser l'esprit d'orthodoxie revient à libérer Dieu des carcans dogmatiques qui bien souvent dessèchent la foi. C'est empêcher justement que la foi soit prisonnière de manières de dire et de penser définitives, figées et immuables. On peut dire de la lutte contre l'esprit d'orthodoxie qu'elle veut dépoussiérer la théologie, qu'elle entend conjuguer la foi au présent et au futur, qu'elle empêche la foi de devenir une relique, une antiquité, une foi archéologique. Croire au Dieu de Jésus-Christ, c'est croire en une puissance de créativité qui ne cesse d'ouvrir le monde et nos vies sur de nouvelles possibilités. Ce Dieu qui nous tourne vers l'avenir, ce Dieu qui est promesse de nouveauté, ce Dieu qui est force de résurrection, ce Dieu suscite, appelle, invite, autorise une foi et une pensée neuve et sans cesse renouvelée. Lutter contre l'esprit d'orthodoxie, c'est souligner ainsi la relativité de toutes nos manières de parler de Dieu et même celles qui nous sont les plus familières et que nous aimons peut-être le plus. Ces manières de dire, nos manières de dire, sont toujours l'expression d'une époque. Nos affirmations doctrinaires sont toujours des tentatives de réponse, de répondre à un moment donné aux grandes questions qui se posent. Souligner ainsi la relativité d'une idée ne la rend pas pour autant insignifiante, cette idée. Cela souligne simplement que nos convictions ne peuvent jamais dire le tout de la foi, de Dieu, de la vie, de l'existence humaine. Et à ce titre, on pourrait dire du coup qu'une pensée qui refuse l'esprit d'orthodoxie est une pensée de l'inépuisable. C'est une pensée qui se sait et qui s'accepte comme une pensée limitée. C'est une pensée qui s'accepte comme la pensée d'un jour, d'une époque, mais une pensée qui apporte une réponse, qui apporte des réponses, mais qui n'apporte pas toutes les réponses. Une pensée qui n'a pas réponse à tout. La pensée théologique s'accepte comme une pensée limitée, car elle sait bien que son référent, le référent ultime, Dieu, lui échappe. Dieu n'est pas réductible à ce que nous en disons. Dieu n'est pas prisonnier de nos dogmes. de nos institutions, de nos pratiques religieuses, le Dieu de Jésus-Christ, ce Dieu du renouvellement, ce Dieu des horizons nouveaux, c'est ce Dieu-là qui met à l'aventure nos certitudes. C'est ce Dieu-là qui, parce qu'il est force de nouveauté et de créativité, nous invite à relativiser nos propres acquis, nos propres certitudes. C'est ce Dieu-là qui nous libère de l'esprit d'orthodoxie. Le troisième critère que j'aimerais avancer ce matin, c'est l'usage de la critique. Et on peut dire qu'une pensée théologique est libérale parce qu'elle accepte et valorise la critique, que celle-ci soit une critique interne, donc par elle-même, produite par elle-même, ou une critique externe, celle que les autres peuvent lui adresser. Le théologien protestant, cette grande figure de la théologie protestante du XXe siècle, Paul Tillich a souvent souligné combien les religions ont toutes besoin de critiques pour rester vivantes. Il explique que, je le cite, « toute religion se fonde sur une révélation, mais aucune religion n'est révélée. Toute religion se fonde sur une révélation, mais aucune religion n'est révélée. Il existe toujours un écart, une distance, il y a une différence entre l'expérience révélatrice qui fonde la religion et la manière dont nous comprenons et interprétons cette expérience révélatrice. Et la religion témoigne de cette révélation originelle, elle l'incarne, cette révélation, elle l'institue à travers des formes humaines, culturelles, linguistiques. Ces incarnations contribuent à inscrire la révélation dans le réel, à la faire connaître, à en assurer une pérennité, mais cette inscription demeure partielle et approximative. Toute religion révèle et déforme en même temps. Aucune ne peut prétendre rendre équivalente ces expressions doctrinales, ces pratiques, ces représentations de Dieu, éléments qui sont toujours contingents et relatifs, à la réalité qui fonde cette religion, qui est, elle, ultime et infinie. Dieu est toujours au-dessus de Dieu, dit souvent Paul Tillich, et cette affirmation entend notamment témoigner de la distance qui sépare Dieu en soi de ce qu'il est pour le croyant et pour tous. La réalité ultime n'est jamais entièrement saisissable dans les catégories de pensée qui sont à elles toujours limitées, marquées dans le temps, imparfaites. Pour le dire autrement, il n'y a pas de coïncidence possible entre l'être de Dieu et l'image que nous nous faisons de lui. Il existe bien sûr des points de contact, de rencontres, de connexion entre ce qui est infini et ce qui est fini, car sans eux, sans ces points de contact, Dieu ne serait qu'une abstraction, sans existence réelle et sans incidence dans nos vies. Mais c'est aussi, rappeler ces points de rencontre ne signifie pas qu'il y a identification entre Dieu et ce que nous disons de lui. Toute religion se fonde sur une révélation, mais aucune religion n'est révélée. Et c'est parce qu'il y a cette distance, c'est parce qu'il y a cet écart, cette différence entre Dieu en soi et ce que nous pouvons en dire, c'est parce qu'il y a cette distance entre la révélation et ce que les religions en disent de cette révélation, que nous pensons que la critique devient possible et nécessaire. Et cette critique peut prendre des formes différentes, diverses. On peut dire tout d'abord que la critique est une critique mystique. On peut dire qu'il y a une critique mystique lorsqu'elle met en cause les intermédiaires entre Dieu et les humains, tels les églises, les célébrations religieuses, le clergé, mais aussi les expressions religieuses, les dogmes, les rites ou encore les livres de référence, souvent considérés comme livres saints. Cette critique mystique entend rappeler la primauté de la rencontre directe avec Dieu, comme la souveraineté absolue de Dieu sur toute forme de médiation, sur toute intermédiaire entre l'humain et Dieu. On peut dire de la critique qu'elle est une critique éthique, ce serait la deuxième caractéristique, une critique éthique, lorsqu'elle condamne ce qui dévalorise l'humain au nom du sacré. Cette critique récuse, par exemple, toute justification religieuse de l'injustice. Elle met en question le repli sur la foi religieuse comme une forme de comme un dérivatif à la souffrance. Cette critique éthique, morale, refuse la résignation devant le mal, autant d'éléments qu'il est commun d'appeler l'aliénation religieuse. On peut dire de la critique dans la religion, la critique morale, qu'elle lutte contre les aliénations religieuses. Une troisième forme de critique serait une critique rationnelle. Une critique rationnelle qui met en cause le manque de justesse des éléments doctrinaux. Cette critique appelle davantage de précision, de cohérence dans les expressions de la foi, et elle refuse, comme je le disais tout à l'heure, elle refuse ce divorce qui bien souvent oppose la foi et la raison, et rappelle que croire et comprendre s'appellent mutuellement. Et puis on pourrait parler d'une critique prophétique, une critique prophétique, celle qui lutte contre ce qui prétend enfermer Dieu dans un dogme, dans une image, dans une confession. Cette critique souligne elle aussi la souveraineté absolue de Dieu, sa souveraine liberté, la liberté de Dieu de se manifester où, quand et comme il veut. Toute expression religieuse, qu'elle soit dogmatique ou liturgique, reste relative et ne peut par elle-même nous conduire au divin. La critique à l'endroit de la religion est utile aux religieux, à la religion, dans sa recherche de cohérence propre, de clarification. Elle appelle à la religion, à l'expression de la foi, plus de cohérence, plus de clarté dans ses énoncés doctrinaux. Mais la critique empêche aussi la religion de s'absolutiser, de devenir un absolu, d'oublier les conditions de sa relativité. On peut dire de la critique qu'elle reconduit la religion à la relativité de ses expressions et de ses croyances. La critique enseigne la relativité. Et dans ce sens, on pourrait dire d'une religion non critiquée qu'elle est une religion sclérosée. C'est bien de la critique interne ou externe qu'une religion s'ouvre à de nouvelles attentes, à de nouvelles interrogations, s'enrichit d'éléments nouveaux qui la renouvellent, qui la rendent plus juste et plus pertinente. Oui, je crois que la critique, le fait de valoriser, comme je viens de le faire, la critique, est un élément important de la théologie libérale, cette théologie qui rappelle que non seulement la critique est inévitable, mais qu'elle est au contraire nécessaire, qu'il n'y a pas de religion sans possible critique. Quatrième critère, la pluralité. Je crois que l'on reconnaît une pensée libérale, qu'on peut dire d'une pensée qu'elle est libérale, à travers sa capacité à accueillir et à valoriser la pluralité. La pluralité des points de vue, des confessions de foi, des expressions dogmatiques, la pluralité des pratiques religieuses, des sensibilités, des cultures, des formes de vie. L'accueil de cette pluralité appelle à la conversation, au débat, à la dispute théologique parfois, à la discussion. Et je crois que ce qui est caractéristique de la pensée libérale est la conception très positive qu'elle porte sur la pluralité, et ce au point de l'interpréter et de la valoriser théologiquement. Car accepter la pluralité des points de vue n'est pas seulement une concession à la modernité, cette modernité qui nous enseigne notamment la relativité. Accepter la pluralité en théologie, c'est une confession de foi. C'est confesser que Dieu se révèle aussi ailleurs, dans d'autres religions, à travers d'autres confessions, dans d'autres livres que les nôtres. La pluralité religieuse atteste publiquement que Dieu est aussi le Dieu des autres et qu'il n'est à ce titre la propriété de personne. La pluralité religieuse témoigne de la grandeur de Dieu, de son insoumission à tout ce qui prétendrait le limiter et le posséder. La pluralité des religions dit bien la liberté de Dieu de se révéler où, quand et comme il veut. Cette pluralité témoigne ainsi et aussi que de Dieu, tout n'est pas encore dit, tout n'est pas encore compris, reçu et peut-être même aimé. Accueillir favorablement la pluralité, c'est la penser comme le résultat de l'action de Dieu, comme le fruit de sa révélation plurielle. Mais accueillir cette pluralité, l'interpréter théologiquement, par exemple comme je viens de le faire, c'est aussi la protéger, cette pluralité, c'est aussi la défendre, la valoriser, et ce, là encore, comme un acte de foi. Car si Dieu n'est pas limité à ce que je peux en dire, j'ai alors besoin des autres pour découvrir de nouvelles choses sur Dieu, pour être renouvelé, pour être stimulé, pour être capable de nouveaux émerveillements. Valoriser la pluralité, c'est préférer l'étrangeté au semblable, c'est accepter l'autre comme son semblable, mais c'est aussi accepter que son semblable soit un autre. Accepter la pluralité, c'est aussi un combat contre l'exclusivisme, le sectarisme, mais aussi contre l'homogénéisation, contre l'indifférenciation. Cette approche positive de la pluralité est guidée par l'idée que c'est certainement cette confrontation à l'autre qui nous transforme de manière créatrice. C'est bien cette transformation à la différence qui enrichit nos propres systèmes de pensée, nos spiritualités, nos existences. C'est bien ainsi à travers l'autre, à travers les autres, que Dieu lui-même nous anime, nous réanime, nous renouvelle, nous transforme de manière créatrice, nous recrée sans cesse. Oui, la pluralité est le fruit de l'action de Dieu, car son action transformatrice dans le monde passe par notre mise en relation, passe par notre mise en confrontation avec autrui, avec la différence. En effet, je le disais, cette pluralité, accueillir cette pluralité n'est pas une concession à la modernité, ce n'est pas seulement non plus un acte moral d'accueillir favorablement les autres, mais c'est l'expression, la traduction, la mise en œuvre d'une conviction théologique, celle de dire que Dieu se révèle à travers la pluralité et qu'il a besoin lui aussi de cette pluralité, de la diversité pour nous transformer de manière créatrice. À la question de savoir ce qui nous permet de considérer telle ou telle pensée comme libérale, qui est donc bien la question de ce matin, j'aimerais avancer un cinquième critère. Et ce dernier critère sera davantage un critère de contenu, et non pas seulement de méthode, de manière d'être et de comprendre, de se positionner par rapport à la religion, par rapport à la pensée. Et ce critère se résume en un seul mot, le mot qui est peut-être le mot le plus important du christianisme, un mot tout simple, le plus bref de la langue française, le mot « et », E-T, E-T. J'ai eu l'occasion de l'écrire ce mois-ci dans Évangile et Liberté, dans un article consacré à ce thème, Dieu et l'humain, E-T, Dieu et l'humain. Et, je l'écris, je le pense, et le mot qui est sans doute, en effet, le mot le plus important du christianisme, car le christianisme est la religion de l'incarnation, de la rencontre du ciel et de la terre, de l'au-delà et de l'en-deçà, du fini et de l'infini, du divin et de l'humain. Et la théologie chrétienne a pour tâche de penser cette articulation complexe entre Dieu et l'humain. Un Dieu qui décide de se raconter à travers l'humanité, qui fait de l'humain, de l'histoire, le lieu de sa propre histoire, et un humain qui ne peut pas se penser comme n'étant que du fini, mais qui est porté par quelque chose qui le dépasse, qui le transcende. Si avec, le mot de avec, est le mot le plus important de la foi chrétienne, de la foi vécue, du christianisme vécu, de l'homme dans sa relation avec Dieu, et un Dieu qui se fait avec l'humain, le mot de et, est le mot de la théologie, de la dogmatique, de la systématique chrétienne. Et c'est à cause ou au nom de ce et, que l'on ne peut plus se satisfaire d'une conception de Dieu qui soulignerait la radicalité de sa transcendance. Si Dieu est avec, si Dieu est à penser avec l'humain, si Dieu et l'homme doivent être pensés ensemble, cela signifie que Dieu n'est plus ce tout autre, impassible, indépendant, suffisant, isolé dans son omniscience, son omnipotence, son omniprésence. Un Dieu avec l'homme est un Dieu proche, qui fait avec et qui doit faire avec, qui ne peut que faire avec. Un Dieu qui compose, un Dieu qui se laisse ainsi instruire, toucher, transformer par le monde et par l'humain. Prendre véritablement au sérieux ce « et » de la foi chrétienne, un Dieu et l'humain, n'est pas sans incidence, comme vous le voyez, dans notre compréhension même de ce Dieu. Et c'est aussi à cause et au nom de ce « et » que la théologie libérale œuvre à mettre en question et à contester tout ce qui empêche l'humain de s'émanciper, de s'épanouir, de se libérer, de prendre de la hauteur, de se transcender, de se dépasser. Si nous croyons que l'histoire de l'homme est une histoire qui se construit avec Dieu, si nous pensons que l'homme, l'humain, est inexorablement relié à cette transcendance, c'est dire que l'humain est toujours plus que l'humain, c'est dire que l'humain est porté par un souffle créateur qui le dépasse, qui ne cesse de lui donner, de lui offrir une hauteur, une grandeur, une transcendance, une possibilité à se dépasser. Mais la théologie serait une théologie libérale, est une théologie libérale lorsqu'elle considère que ce « est » n'est pas seulement ce que Dieu et l'homme sont invités à vivre, mais lorsqu'elle pose ce « est » comme une condition. Dieu et l'homme, Dieu et l'humain, ont mutuellement besoin l'un de l'autre. Dieu a besoin de l'humain pour que son royaume ne soit pas une chimère. Dieu a besoin de l'humain, ce Dieu qui a besoin de faire avec l'humain pour que son projet pour l'humanité se réalise, pour que son action transformatrice trouve une réponse, ait une efficacité. Et l'homme a besoin de Dieu pour ne pas être condamné au déterminisme, pour ne pas être condamné à la fatalité, pour ne pas être condamné à la petitesse, à la laideur, au médiocre. Oui, dire de l'humain qu'il est avec, indissolublement avec Dieu, c'est dire que cet humain est relié à un projet qui le dépasse, qui lui permet de se transcender, de se dépasser. Et la pensée théologique de ce « et » est une pensée libérale, car ce « et » appelle précisément les différents critères que je viens d'évoquer. Ce « et » de Dieu et l'humain est justement celui qui réunit la foi et la pensée, la foi et la raison, la foi et la science, et refuse leur divorce. Pensez Dieu et l'humain ensemble, eh bien oui, c'est justement réunir la foi, réunir la dogmatique, réunir la religion et la raison, la pensée, la science. Ce « et » est aussi celui qui accueille les pensées de toutes sortes et qui récuse l'esprit d'orthodoxie. Non pas qui récuse les orthodoxies, ce serait une nouvelle orthodoxie que de récuser les orthodoxies, mais qui refuse, et c'est bien plus subtil, l'esprit d'orthodoxie. Cet esprit qui nous rend imperméables à la différence, aux autres, aux pensées différentes et aussi aux pensées dérangeantes. Le « et » de Dieu et de l'humain, c'est un Dieu qui accueille les pensées de toutes sortes, des pensées différentes, comme peuvent l'être justement la différence entre Dieu et l'humain. Ce « et » est celui qui nous oblige à repenser toutes nos images de Dieu et de l'humain et à les mettre en critique. Et on l'a bien vu, penser sérieusement, prendre sérieusement en compte ce « et » de Dieu et de l'humain nous oblige à repenser nos images traditionnelles de Dieu. J'ai cité l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence, les grands attributs caractéristiques de la théologie chrétienne. Eh bien, la conviction ferme que Dieu a besoin de l'humain pour réaliser son projet, et l'autre conviction appelée par la première, que l'humain a aussi besoin de Dieu pour s'émanciper, pour se transcender, pour se dépasser, nous oblige à réviser et à mettre en critique nos images traditionnelles de Dieu. Parler de l'omnipotence, eh bien oui, Dieu n'est pas tout-puissant. Ce Dieu qui peut tout, ce Dieu qui fait tout, parce qu'il a justement, avec l'autre, besoin de l'humain pour réaliser son projet. Le « et » pris réellement au sérieux et repensé théologiquement, ce « et » de Dieu et de l'humain, oui, nous oblige à repenser nos images de Dieu et à les mettre en critique, nos images de Dieu, mais aussi nos images de l'humain. Car dire que Dieu est avec l'humain, eh bien, c'est lutter contre tout ce qui empêche l'homme, tout ce qui empêche l'humain de prendre cette hauteur, de se transcender, de se dépasser. C'est donc aussi un combat que de dire Dieu est l'humain. Et puis, ce « et », c'est celui de la relation. C'est celui de la conversation, c'est celui du débat, c'est celui de la pluralité, ce quatrième critère que j'avançais, celui de la pluralité, le « et » de la relation, de la conversation. Et j'aime aussi à penser la relation entre Dieu et l'humain comme celle justement d'une conversation où chacun est appelé à être transformé par l'autre, et je pense que la Bible est ce magnifique livre qui nous raconte des rencontres, qui nous raconte des conversations entre Dieu et l'humanité, une conversation qui est un lieu de transformation créatrice, où l'humain ne cesse d'être transformé par Dieu et où Dieu lui-même ne cesse d'être transformé par l'humain. Cette idée de la transformation de Dieu, c'est celle qu'a défendue la théologie dite du process, ce grand mouvement de la théologie du XXe siècle, qui, le mot process le dit bien, l'idée de transformation, du processus, de ce qui change, mais aussi, dans process, c'est l'idée de la nouveauté, l'idée de quelque chose qui surgit, qui advient. Eh bien, cette théologie du process dit, en effet, que Dieu n'est pas ce Dieu impassible, absent, qui s'ingère de temps en temps dans les affaires du monde, mais ce Dieu est à penser comme ce Dieu avec, ce Dieu qui doit aussi faire avec et qui ne cesse de transformer le monde pour l'épanouir, pour l'embellir, pour le conduire au meilleur de lui-même, qui ne cesse de transformer nos vies, de nous animer, de nous bouleverser, de nous ressusciter. Et Dieu lui-même, dès lors qu'il est en relation avec nous, dès lors qu'il nous aime, dès lors qu'il est lié à nous, est transformé. Il est transformé par la réponse que nous lui apportons. Dire oui à l'Évangile, c'est répondre favorablement au projet d'humanisation du monde auquel Dieu nous appelle, et c'est aussi transformer la manière dont Dieu agit aussi dans le monde. Ce « et » donc celui de la relation, de la conversation, du débat, de la pluralité, le « et » de ce quatrième critère. Et puis on pourrait dire aussi, et je terminerai là-dessus, ce « et » et, c'est aussi celui de « évangile » et « liberté ». « Évangile » et « liberté », ce titre de cette revue qui est un titre magnifique, qui est un véritable projet, c'est la grande idée de la théologie libérale, penser ensemble l'évangile et la liberté, et c'est, je crois, au cœur même du christianisme, je crois que la foi chrétienne, c'est évangile et liberté, un enracinement et la possibilité d'un dépassement, d'un déplacement, d'une transcendance. C'est un contenu, le contenu d'une prédication qui vise à l'humanisation de la vie, à l'humanisation de l'homme, qui vise à la transformation créatrice de l'homme, un évangile qui est une résistance contre toutes nos aliénations, contre tout ce qui nous met en incapacité d'exister. C'est donc à la fois un contenu, et c'est en même temps un appel, une vocation, une démarche, la liberté de poser des questions, la liberté de dire « j'y crois, je n'y crois pas », la liberté de penser par soi-même, la liberté de se sentir autorisé à exister pleinement tel que nous sommes. C'est à la fois donc un contenu, et c'est aussi, c'est donc à la fois un contenu, une prédication, un message, celui d'un évangile de liberté, et c'est aussi un contenu, une manière d'être, une manière de se positionner par rapport à autrui. Alors, Dieu et l'humain, oui, je crois que c'est là au cœur de la théologie libérale et au cœur aussi d'une théologie qui, justement, récuse le divorce entre la foi et la science, qui lutte contre l'esprit d'orthodoxie, qui nous oblige et qui nous invite à la critique, qui nous appelle à la pluralité et qui ose penser ensemble évangile et liberté. Amen.
Merci Raphaël. Et je pense que ta place ici est bel et bien marquée et on espère te revoir bientôt dans ces murs. Je crois me faire l'écho de la vie générale en disant cela. Voilà. Je vous rappelle que dimanche prochain, comme nous sommes vraiment des libéraux, eh bien, nous aurons une critique du libéralisme. Hein, et c'est Serge Oberkampf de Dabrin qui viendra nous faire un exposé qui sera une critique du libéralisme. Il n'est pas libéral du tout, mais il connaît bien la théologie. Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être parce qu'il a fait son stage d'église ici, au foyer de l'âme, précisément pour rencontrer le libéralisme, qui n'est pas sa sensibilité. Vous voyez, donc c'est un esprit quand même qui est assez ouvert, voilà. Et il a pas mal d'humour aussi. Et donc je pense que c'était intéressant de rencontrer Serge à cette occasion. À la suite de ce culte de dimanche prochain, de ce culte de conférence, il y aura un repas de paroisse où j'espère que vous retrouvez les uns les autres, ceux qui peuvent venir évidemment, où on pourra continuer à discuter sur le libéralisme avec ceux qui seront présents. J'ai bien conscience que vos prières sont très riches de pensées, de personnes, de situations et de visages. Mais avant de partager la prière que le Seigneur nous a enseignée, j'aimerais vous raconter cette histoire. D'abord, vous remercier de me donner la possibilité de m'investir dans la diaconie. Parce que c'est vrai que le christianisme est un humanisme, ça aussi c'est une pensée un peu libérale. Et vous savez que je suis inscrit au collectif des morts de la rue. Et qu'à ce titre, je vais m'occuper des obsèques de gens qui sont SDF ou qui sont tellement pauvres que personne ne veut s'occuper d'eux. Et mercredi matin, j'ai enterré une petite fille de 24 jours, de 24 heures. Oui. C'est un accident qui arrive, évidemment, vous le savez. Mais le terrible était à deux niveaux dans ce drame. C'est qu'il n'y avait personne. Pas de parents, pas de frères et sœurs, pas d'oncles, pas de grands-parents. Il n'y avait personne. Et l'enfant était abandonné, complètement. Soit que les parents n'avaient pas les ressources émotives, psychiques, financières, je ne sais pas, il y a des tas de raisons qui peuvent, ou géographiques qui peuvent expliquer l'abandon d'un enfant mort comme ça. Mais il n'y avait personne. Voyez. Alors j'ai enterré souvent des enfants morts, de mort subite du nourrisson. Ça m'est arrivé malheureusement fréquemment. Et le cri des parents est une parole. Une parole qui a quand même du sens. C'est terrible à dire, mais c'est a quand même, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, quelque chose de positif, vous voyez. Mais quand il y a le silence absolu de l'absence, on est un petit peu confronté à l'absurde. Et là ne s'arrête pas l'histoire. Parce qu'au cimetière de Thiers, grand cimetière parisien de Thiers, il y a un carré spécial pour les enfants abandonnés. Vous voyez. Avec des plaques qui n'ont pas de nom, aucune pierre tombale, rien du tout. Et là aussi, je veux dire, il y a quelque chose d'absolument tragique. On a l'impression d'être dans l'absurde complet. Alors, je voulais vous faire part de cette situation. L'absurde, on en est servi depuis le début de l'année, malheureusement. On ne le savait que trop. L'actualité nous le dit tous les jours et nous le rappelle avec bon, les catastrophes que vous connaissez. Mais voilà, cette histoire. Ça ne passe pas à Haïti ou dans le tiers-monde, elle se passe à côté de chez nous. Ça s'est passé là, vraiment là, dans le 12e arrondissement. Voyez. Alors voilà, cette petite fille, elle s'appelle Laurine. Et puis je sais qu'avec tous les gens que vous associez dans vos prières, eh ben, je pense qu'il faut penser à elle d'une manière ou d'une autre. Hein. Parce que face à l'absurde, il n'y a qu'une chose qui m'a semblé intéressante à dire et à lire, c'était l'hymne à l'amour. Voilà, c'est le texte que j'ai lu au cimetière. Je n'ai rien trouvé de mieux. Vous me direz, c'est déjà pas mal. Mais je pense que l'amour, c'est ce qui nous transcende, ce qui donne du sens à tout et ce qui nous permet de dépasser l'absurde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain de vie dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas dans la tentation. Délivre-nous du mal. Car en toi sont la vie, la joie, l'espérance et l'amour pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour vivre la bénédiction. J'espère que vous allez sortir d'ici en étant plus riche qu'en arrivant. Sinon, on va demander des comptes à Raphaël, évidemment. Alors, au fil des jours qui arrivent, pensez à ce libéralisme, à cette manière d'être. À ces remises en cause, à ces questions, à tout ce qui fait la richesse de l'humain, de l'humanisation de l'humain. Et je crois que tout ça, c'est important, effectivement, et tout ça est plein de sens et de lumière. Oui, soyez riches de la parole vivante, d'un Dieu vivant qui bouge, qui vit avec nous, et qui nous interpelle, et qui peut-être lui-même être aussi remis en cause de manière profonde. Soyez riches de la joie et de l'espérance et de l'amour qu'il y a dans l'Évangile. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde à jamais. Allez en paix maintenant et pour toujours, dans sa lumière et dans sa joie, avec les rencontres, avec l'inattendu, avec la vie qui vous attend. Amen.